ping-pong. C'est sur France Culture.
Lui pense que même quand on ne pense pas à l'architecture, elle pense à nous. Elle a pensé à lui très tôt. À 13 ans, il dessinait l'église Santillana del Mar en Espagne, sans savoir pourquoi. Peut-être parce que plus tard, il allait devenir le premier Français à recevoir le prix Pritzker, le Nobel de l'architecture. Celui qui est aussi urbaniste et peintre a construit et rêvé partout dans le monde une troisième voie possible entre l'architecture fonctionnelle des bars et le formol de la ville-musée. Un trait d'union entre le passé et le futur pour réenchanter le réel. Après avoir raconté ce qu'il fallait faire dans ses cours au Collège de France, il dit aujourd'hui comment il a fait. Dans un grand livre, Christian de Porzampar, Les dessins et les jours, l'architecture commence avec un dessin. Alors Christian de Porzampar, vous vous racontez par vos dessins. En quoi ce sont pour vous des romans d'anticipation ?
Parce que le dessin d'architecte, c'est fait pour quelque chose qui n'existe pas encore. Chaque dessin, d'ailleurs, suit un autre. C'est une idée avec des... Quand on prépare un projet, on a des bonnes idées et des mauvaises. Alors, il faut éliminer les mauvaises. Alors, on fait des dessins pour un peu vérifier. Et tout ça m'a intéressé parce que chez les architectes, c'est toujours assez suspect, le dessin. Parce que c'est... ça veut dire qu'on se fait plaisir. Ça veut dire que c'est pour faire joli. On a oublié que c'était... il fallait qu'on vive bien dedans. Et on a ça en tête, bien sûr. Donc, c'est un sujet un peu ambigu. Et quand je me suis aperçu que, après avoir fait des entretiens avec Alain Orlandini, qui devait être illustré par des dessins, je m'aperçois en revoyant ces dessins que l'important, c'est le roman, c'était les dessins, ce n'était pas les entretiens que j'avais faits. Repartant des dessins, me sont revenus des semaines, des mois, des années aussi, et que je me suis aperçu qu'eux-mêmes racontaient toute une chronologie d'idées, et que c'était ça qui était intéressant. Voilà, et
c'est ça votre roman.
Ça devient le roman.
Lui aussi sort de semaines, de mois, d'années de travail pour ce projet. Lui, le dessinateur de bande dessinée hors limite, qui, au gré de ses publications, s'est révélé un peu iguane, un peu espion, un peu catcheur aussi, et complètement chlorofluorocarboné, comme le gaz Fréon, qui a donné son nom à sa maison d'édition, devenue les éditions Frémoc, après son association avec d'autres fous. Thierry Van Hasselt, assurément, comme le prouve sa dernière BD, intitulée « Vivre à Frandisco », une bande dessinée aux airs d'errance, ou peut-être de poursuite dans les rues de Frandisco, ville de carton, bâtie par l'artiste trisomique Marcel Schmitz, une ville mutante et brute, mobile aussi, comme le château dans le ciel de Miyazaki ou la croisière des oubliés de Bilal et Christin, une ville de carton exposée de Genève à Paris en passant par Aix-en-Provence où elle vient de terminer une résidence à la Fondation Vasarely et dont vous, Thierry Van Hasselt, vous avez donc dessiné l'élaboration et où vous avez fait de Marcel Schmitz le héros. Alors, on dit Marcel Schmitz artiste trisomique, mentalement déficient, fou peut-être, mais on sait au moins depuis Nietzsche qu'entre le fou et le sage, ça peut se retourner très vite. Où est, selon vous, la sagesse de Marcel Schmitz ?
De toute façon, de folie, il n'est pas du tout question. Marcel Schmitz est trisomique, c'est quelque chose qui est quand même assez défini. Mais c'est avant tout, je pense, un artiste. Et c'est quelqu'un qui a compris qu'avec cette pratique de l'artiste, il pouvait mener une vie beaucoup plus émancipée et quelque part échapper à une condition que le handicap lui impose, qui est la condition de vivre en foyer, de ne pas effectivement faire tous des choix, de ne pas faire beaucoup de choix et que beaucoup de choses sont décidées pour lui. Et là, en construisant cette ville, en faisant de cette ville son projet de vie, et du coup aussi du fait que cette ville maintenant, elle se promène avec lui, c'est-à-dire que cette ville, elle est géniale, et donc elle a été accueillie et invitée dans pas mal d'endroits, comme vous avez dit, à Genève, à Paris, chez Agnès B, à la Fondation Vasarely. Et bien, chaque fois, ce sont des lieux de résidence et d'accueil où Marcel Schmitz peut vivre loin de son foyer de Vielsalm, la grande vie d'artiste. Et finalement, ce projet est devenu un aller-retour entre cette vie d'artiste et son projet, son œuvre, sa ville, puisque quand on va à Genève, par exemple, on était au Théâtre Forum Mérin, à côté duquel il y avait, puisque c'est à côté d'un aéroport, il y a le NH Hotel de l'aéroport où on était logé. Et donc ce NH Hotel, il l'a réintégré dans sa ville. La même chose avec Agnès B, le bâtiment revient dans la ville, la Fondation Vasarely, tous ces lieux qu'il visite viennent agrandir sa ville, mais ce sont des transpositions de ces lieux. Ce sont des lieux qui sont encore plus géniaux que les véritables bâtiments, on va dire.
Sans offense pour Christian de Port-en-Part.
Bon, je parlais du NH Hôtel de Genève, c'est...
Justement, revenons à ces bâtiments qui n'ont peut-être pas existé, Christian de Port-en-Part, parce que vous racontez dans ce livre que la majeure partie des projets ne dépassent pas la fiction, que ce sont comme des partitions qui n'ont jamais été jouées. Est-ce que vous accepteriez, non pas nous emmener à Frandisco, la ville imaginaire de Marcel Schmitt et de Thierry Van Hasselt, mais dans l'un de vos projets fantômes, qui n'existe encore qu'en dessin, est-ce que vous accepteriez de nous faire une visite en 3D de l'un d'entre eux ?
J'en ai pas un qui me... Il y en a beaucoup, hein.
Oui, il y en a énormément. Il y a 1200 dessins dans ce livre.
Beaucoup ne sont pas faits. Quelquefois, c'est des grands enjeux comme le concours pour l'Opéra Bastille. J'étais tout jeune. J'étais dans les 6 finalistes, mais enfin, mon dessin a été un peu abîmé. Il a passé l'été à l'Élysée, paraît-il. Bon, puis à la fin de sa vie, François Mitterrand dit à Bernard Pivot... J'aurais préféré le projet de Christian de Port-en-Part, mais j'ai suivi l'avis du jury. En fait, non, il y a eu une décision. Voilà, alors c'est des déceptions. Peut-être c'est bien que je ne l'ai pas fait, parce que l'année suivante, il y avait le concours pour la Cité de la Musique, qui est un programme moins prestigieux peut-être, mais beaucoup plus riche, avec des centaines de lieux. Et ça a été une espèce d'exploration pendant 10 ans, et un travail qui m'a nourri, m'a formé aussi. Hein.
Avec votre femme aussi
Alors, ma femme, à ce moment-là, elle était urbaniste, puis elle a fait du design. On avait des carrières parallèles, mais différentes. On a jamais travaillé à quatre mains, mais on a travaillé côte à côte, et en échange, en ping-pong, tout le temps. Voilà. Et alors, les projets non construits sont forcément assez nombreux. Mais c'est peut-être la majorité dans le livre.
Peut-être vous allez nous faire visiter votre philharmonie.
Ah, philharmonie que j'ai fait, j'essayais d'être en continuité avec le bâtiment. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Non, c'est pas si simple. De donner une perspective. J'avais fait déjà ce projet, pas celui-là, mais à peu près dans ces lieux-là. Puisque au départ, il était normal que je le fasse. Parce que c'est le même. C'est le même bâtiment, c'est la suite, on m'avait dit, c'est la cohérence, vous devez le faire. Après, on m'a expliqué...
La suite de la Cité de la Musique.
Voilà, la Cité de la Musique. Après, on m'a expliqué en 2006 ou 2007 qu'il fallait que je sois dans le jury, que je n'étais pas souhaité et que c'était obligatoirement un concours à cause des règles de l'Europe. Bref, non, je n'étais pas voulu pour des raisons que je ne saurais pas expliquer ici, que je connais un peu, et qui ne sont pas vraiment des raisons d'architecture. Donc, je dois dire, pour être franc... que le projet qui a été fait, je trouve qu'il casse. Il fait tout pour être différent, voire opposé au mien. Ce qui fait que, de l'extérieur en tout cas, il a sûrement une belle salle, mais de l'extérieur, c'est quelque chose qui rompt l'ensemble du site, c'est plutôt un regret. Donc si j'ai présenté ce projet de la Philharmonie, c'est parmi beaucoup d'autres qui ne se sont pas faits. Je n'en ai pas dit plus dans le livre que cela.
Il y a quelques projets fantômes, donc, dans le livre de Christian de Port-en-Part. Tous ces projets, qu'ils étaient réalisés ou non, sont en tout cas nés de son imagination, comme Frandisco, Thierry Van Hasselt, la ville d'abord imaginée en dessin, puis en 3 dimensions, en carton et en scotch, par Marcel Schmitt, que vous avez suivi, épié, et puis ensuite vous vous êtes mêlé non seulement de dessiner cette aventure, mais aussi de construire cette ville. Cette ville, c'est, dit-on, la mère des obsessions de Marcel Schmitt, une cité céleste descendue sur Terre, une ville qui fait songer à l'œuvre du facteur cheval ou peut-être à celle d'Henri Darger, un grand artiste brut qui était exposé à Paris récemment, qui a pu écrire l'histoire des sœurs Viviane en plus de 15 000 pages. Il y a quelque chose dans le projet comme ça, titanesque aussi, de Darger qui résonne avec celui de Marcel Schmitt. Est-ce que vous nous offririez une impossible vue d'ensemble pour planter le décor de cette utopie intime, abyssale, galopante, contagieuse et même cannibale, qui est Frandisco?
Oui, une vue d'ensemble, c'est un peu difficile, mais je peux vous décrire quelques bâtiments qui sont un peu emblématiques. Il y a en fait 2 grands axes qui peuvent traverser Frandisco, c'est les piscines et c'est la religion. Donc il y a un tas de mix de ça, dont le plus emblématique est la piscine-église, qui est une la piscine et l'église. On commence par entrer dans l'église, et puis là on est quelque part soumis à une sorte d'élévation spirituelle qui fait qu'on se retrouve sur le balcon au premier étage, et de là on peut prendre l'escalier qui nous amène directement à la piscine. En parlant de religion, il y a un autre truc qui est pas mal, c'est le tunnel église. Là, c'est quand on part en vacances, on ne doit pas s'ennuyer une heure à la messe, on passe dans le tunnel et on a un petit sacrement et c'est réglé, on peut partir tranquillement
sur la nationale 16.
On fait d'une pierre deux coups, c'est vacances. Quand même pratique.
Voilà, il y a une usine de chicons. Des chicons chez nous, c'est les endives, voilà, où les ouvriers travaillent tout nus. Ça, je n'ai pas encore percer tous les secrets, ça viendra peut-être dans le deuxième tome, parce que j'en sais
chaque
pas
bâtiment a son histoire, hein. c'est aussi ça l'important, voilà, comme voilà. C'est le cas dans la vraie ville.
Son histoire, sa fonction.
Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, à vue d'esprit, Christian, de pas en parler.
Vous avez ouvert un Vivre à Frandisco, la BD.
Je suis émerveillé, parce que d'abord je ne connaissais pas. Et là, je découvre, je rentre, et je ressens cette espèce d'imaginaire de l'espace, des lieux, de l'habitat. Je remarque que c'est la géométrie quadrangulaire est présente, mais elle est tordue. Les trous réguliers, les séries, la répétition auxquelles on est habitué dans les villes, elle est là, mais elle se plie aux formes des corps un petit peu. Donc quelque chose de très très étrange. Et beau, alors qu'une imagination qui mélange les corps et les bâtiments. J'ai compris que les bâtiments avaient été à l'origine presque des habits, que Marcel Schmitt s'était fait des boîtes, avait transformé son corps en bâtiment, qui est une espèce de. Et donc ça m'a fait penser à un livre fameux de Rem Koolhaas qui s'appelle New York Délire, bien sûr, où les bâtiments sont des corps, les tours sont des corps allongés. Il y a un fantasme là qui revient, qui semble avoir libéré Marcel Schmitt, si je comprends bien. Il s'est vu avec une société d'autres personnages qui sont aussi des bâtiments. Et puis alors j'admire beaucoup le dessin de Thierry qui est arrivé très simplement à l'encre à traduire un univers je pense qu'il a une espèce de dessin unique qui correspond à son dialogue avec l'artiste.
Un dialogue permanent, évolutif.
Je n'arrive pas à comprendre comment il a pu faire, et ça, c'est magique.
Thierry Van Hasselt.
Je ne sais pas trop quoi.
On vous interroge.
L'idée, évidemment, c'était de trouver un dessin qui soit au service, quelque part, de la ville de Marcel, et faire que cette ville existe passe du statut de maquette à l'idée que ce soit une ville qu'on puisse habiter. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cet outil qui est le Rotring 018, qui est un outil d'architecte en fait.
Une pointe fine.
Une pointe très très fine qui trace à l'encre de Chine. Et j'ai essayé de faire le maximum au début, enfin c'était ma contrainte, c'était de dessiner tout d'observation. Donc j'étais sur ma petite chaise comme un peintre du dimanche avec ma planche à dessin et je dessinais ce que je voyais. Et puis j'ai invité Marcel à poser pour moi, je l'ai mis dans les positions dans lesquels il souhaitait habiter sa ville, et je l'ai dessiné de la même manière, et donc quelque part je l'ai redessiné à l'échelle de sa ville.
Et il s'est mis à lui-même à introduire des dessins et des personnages dans
voilà,
les dessins.
Voilà. À un certain moment, il y avait Saint-Nicolas qui devait arriver, il y avait MacGyver qui devait arriver, les enfants de cœur, et ça, j'avais personne sous la main, enfin, j'avais pas de Saint-Nicolas sous la main pour le faire poser. Et donc là, je lui ai demandé, lui, de dessiner ces personnages-là. Et moi, je les ai soit utilisé directement ces dessins que j'ai collés sur mes planches, soit j'ai réutilisé le modèle de son dessin pour redessiner les personnages, comme s'il en avait fait le schéma anatomique.
Christian de Porzampar, vous parliez du bâtiment comme d'un corps. On le voit bien dans le dessin et dans la ville de Thierry Van Hasselt et Marcel Schmitt. Ce sont des corps, certes, mais des corps qui sont un par un tous différents. On est loin du corps standardisé qu'ont pu rêver ou fantasmer certains architectes. C'est aussi votre idée que chaque bâtiment est un corps, mais est un corps qui peut être de guingois, qui peut être troué, qui peut être failli.
Un îlot ouvert.
Oui, oui. Au fond, oui. Oui, oui. Dès le début, j'évite de... J'essaye de penser que la ville, c'est pas une série de boîtes similaires, et qu'un immeuble, c'est pas 200 fenêtres similaires. Donc il y a eu le moyen de faire entrer ça dans les possibilités réelles de construire, de mettre de faire un projet de logement aussi bien qu'une école. Oui, ça a existé. Alors, on pourrait dire en même temps que le bâtiment où on le construit, c'est l'envers du corps en même temps. Il reçoit le corps. Vous voyez, je ne vois pas un objet fermé. On rentre dedans et on a une idée qu'avec la technique, ça devient très compliqué, comme la domotique, ça devient une machine compliquée. J'avais assez tôt, quand je faisais encore du rotring, parce qu'avant l'informatique, on dessinait avec le rotring 0,9 ou 0,10 ou 0,18. J'avais l'idée, je disais quelquefois, c'est le corps humain la machine la plus complexe. C'est pas le bâtiment. Vous savez, on avait ces utopies dans les années 60, 70, d'une architecture future avec des tas de... qui était une machine, hein, machine à habiter. Ça existe, mais en même temps, on a besoin d'avoir quelque chose qui est un répondant assez simple, qu'on puisse adapter, tout le... avec qui reçoit de la lumière, qui puisse se fermer. Qui... Donc, je ressens ça comme un réceptacle. Et alors, je ne me saurais pas parler de Marcel Schmitt, mais c'est des corps, puis en même temps, on voit que ce sont des intérieurs quand même. Donc c'est assez complexe, il a tout compris, je trouve, de l'univers construit et de la sociabilité qu'il y a dedans. Je trouve ça à la fois drôle et émouvant. Mais oui, il y a un rapport pour moi avec ce que mes îlots ouverts, c'est drôle.
Mais oui, c'est...
Je suis surpris. Il y a des personnages.
Les îlots ouverts.
Beaucoup et...
on peut rappeler peut-être ce concept que vous avez développé justement à un moment où il y avait une confrontation entre deux visions de la ville. Effectivement, voilà. Ces bars fonctionnels et puis délires futuristes ou muséaux.
Si vous voulez, à un moment donné, dans le milieu du XXe siècle, Le Corbusier et d'autres décident qu'il faut tuer la rue et que l'avenir sera une ville ordonnée d'objets parce que l'objet sort de la machine industrielle. C'est sorti d'usine, si vous voulez. L'idée de la tour qui se répète pareil, c'est une esthétique industrielle. Il y avait une fascination pour l'automobile qui sort par milliers de la machine. Et assez vite, je me suis au contraire aperçu qu'il fallait surtout pas tuer la rue, qu'elle était notre futur, qu'elle nous dépassait de loin, qu'elle avait plus de 2000 ans. Et qu'elle avait encore devant nous 20 000 ans, 20 milliards d'années, je n'en sais rien. Parce que c'est une forme très simple. C'est une forme qui met côte à côte la plus grande richesse, la plus grande diversité. Même une ville très pauvre, je vois au nord du Brésil, qui s'est formée il y a 60 ans, qui n'est pas encore du tout. Et on sent que ça pourrait grandir et devenir très très bien, parce que les principales rues sont déjà là. Un bâtiment, curieusement, assez luxueux, puis un autre très pauvre. Mais il y a quatre carrefours. La vie, la rencontre est déjà le futur, l'ADN. Un ADN d'une ville est déjà là. Et cet ADN, j'ai compris que nous, on ne pouvait pas le reproduire tel quel, refaire tous les bâtiments mitoyens, qu'il fallait réinventer une rue plus ouverte, qui permette des confrontations de bâtiments plus différents. Voilà, donc c'est là, de là qu'est venue l'idée de l'îlot ouvert, pas de l'îlot fermé classique. Ce serait long à expliquer, mais oui, c'est venu de là.
On va écouter Marcel Schmitt, justement.
Alors, ça ressemble à votre ville ?
Oui.
Ah, ouais.
Les villes de Frodisco. Frodisco. Et là, c'est building. Et là aussi. Building aussi.
Sur la musique de Lalo Schifrin pour un morceau intitulé Le Building de l'architecte, et bien la voix de l'architecte de Frandisco, Marcel Schmitt, Thierry Van Hasselt, avec qui donc vous avez concocté à la fois cette ville de carton qui se balade dans des lieux d'exposition à travers la planète, et puis cette bande dessinée Vivre à Frandisco qui est publiée aux éditions Frémoc, dont vous êtes un des responsables, un des coupables, avec quelques camarades. À l'instant, Christian de Portempart parlait de l'importance de la rue hors des rues, il y en a, et dans la bande dessinée et dans la ville de Frandisco en carton. Et pourtant, dans la ville en carton, les rues sont presque vides. Vous les avez peuplées, des créatures, justement, ces enfants de cœur, ce MacGyver, ce Saint-Nicolas. Vous pourriez nous parler justement de l'intention que vous avez mise dans la représentation de tous ces personnages, au premier rang desquels Marcel Schmitz, pour dessiner ce qui m'a semblé, moi, être une poursuite. Comme dans un bon film policier.
En fait, c'est une parade. C'est un peu comme la Gay Pride ou le Carnaval de Rio. C'est une espèce de grande. Oui, sauf qu'elle traverse la ville. Effectivement, elle prend l'artère principale de la ville et elle s'y engouffre. Et donc, ça, c'est une idée de Marcel qui a commencé à me parler de la parade de Liège. Donc, il y a une parade dans cette ville qu'il avait sans doute marquée.
Rappelons que lui et vous êtes belges.
Donc, il me parle de la parade. Je dis, il y a une parade aussi à Frandisco. Oui, il y a une parade et on va la construire. Et donc, on va sur Internet, on cherche des chars de parade. Il vient avec nous, je pense, dans un magasin, dans un supermarché. On était à Paris à ce moment-là pour aller faire les courses et il tombe sur des espèces de Barbie assez cheap. Et donc, il les veut, on achète les Barbie, Il a les plans des chars et donc il a commencé à construire tout ça et donc les filles qui sont parce qu'évidemment là il y a des super filles dans la parade
des filles en bikini, une femme papillon
dans la parade de Frandisco et donc ce sont des Barbies qu'on a achetées au supermarché qu'il a entièrement scotchées et retravaillées. Donc lui effectivement les personnages, je pense que c'est pas sa préoccupation principale, sauf dans cette parade. C'est vraiment de construire un bâtiment. Et comme vous l'avez dit, il est un bâtiment. Il est un des bâtiments de cette ville. Et donc, un jour, on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait construire comme costume pour le carnaval. Et il a dit, je vais construire le costume de Seigneur Building. Et Seigneur Building, c'est un énorme building avec deux trous pour faire passer ses bras. Et donc, il rentre dans le costume de Building et il a évidemment gagné le premier prix au carnaval. Et donc, moi, j'ai utilisé évidemment cette image pour ouvrir le livre de Frandisco parce que je trouvais que c'était vraiment une très, très belle manière de le faire rentrer dans sa ville et de vraiment faire comprendre que c'était quelque part les buildings sont ses frères et sœurs dans cette ville. C'est sa famille. C'est Frandisco, c'est sa famille. Et effectivement, après, c'est tous les personnages qu'il va convoquer, qu'il va inviter à rencontrer dans sa ville sont les personnages qui l'ont marqué. Le communiant, ça part d'une photo de lui communiant qui m'a amené, parce qu'il m'amène pas mal de documents comme ça. Saint-Nicolas, c'est la figure divine absolue, je crois, pour lui, parce que en Belgique, ça remplace un peu le Père Noël, et c'est lui qui amène les cadeaux. Donc voilà, les personnages sont ceux-là.
Et
donc,
MacGyver, c'est un peu lui aussi, ouais.
Et il y a aussi tous les personnages, tous les animateurs de l'AS. Donc il y a Anne-Françoise qui est la directrice, avec qui il va faire un petit tour en gondole.
Voilà. À Villeslam.
Voilà, c'est pour les artistes donc mentalement déficients dans lequel est Marcel Schmitz. Vous l'aimiez d'ailleurs, Christian de Portzamparc, dans son esprit, vous l'avez entendu. La façon dont il pense la ville, c'est pour vous proche de ce que vous appelez la mission de l'architecte, c'est-à-dire la mission de réenchantement. Je sais que vous comparez parfois la ville à un film dans lequel il y aurait des séquences de Godard, de Mizoguchi, mais auquel il faudrait aussi intégrer des choses plus banales, plus prosaïques. Est-ce que le film de Marcel Schmitz, c'est un film de réenchantement?
Il me semble, pour lui en tout cas, et puis les dessins le traduisent. Alors j'ai pas encore vu les objets en carton, mais oui, il y a cette espèce de richesse où les choses sont confrontées comme par le hasard ou par ce qui fait nos journées, nos vies, on croise, on rencontre, donc oui, ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, je trouve, si on est urbaniste.
Vous êtes architecte, urbaniste, peintre aussi, on voit énormément d'aquarelles, de dessins dans ce livre. Comment justement ça dialogue, vous aimez parler du dialogue entre ces deux disciplines, architecture et urbanisme, dans votre travail?
Elles sont un peu en continuité. Je trouve que tout bâtiment déjà s'inscrit dans un univers et tisse des liens avec et raconte comment il se voit par rapport au reste. Je ne vois pas le bâtiment comme un objet absolu, isolé. Et pas de la même façon, si je travaille sur un quartier, je vais me dire il y aura plusieurs architectes, il faut qu'ils aient que leurs imaginaires et leur façon de voir les choses se croisent, se coexistent, mais je ne vais pas leur imposer de faire tous la même couleur, la même hauteur, etc. Comment trouver des règles qui vont faire que vont voisiner et parler ensemble, avec, comme vous l'avez dit, des choses extraordinaires et puis des choses plus banales. Bon, il faut arriver à intégrer aussi des choses qu'on n'aime pas vraiment dans une ville. C'est pas que des chefs-d'œuvre. Alors ça se relie un peu de façon continue à l'architecture, vous voyez. Mais c'est vrai que si je fais un bâtiment, je suis dans une situation très différente que si je fais un quartier. Dans un bâtiment, je vais maîtriser 95% des choses. Dans un quartier, 62%, parce que il y a d'autres acteurs, il y a beaucoup de choses qui vont pas se faire comme je le voudrais, etc. Et puis c'est plus long, et puis ça se fait avec 50 personnes. Mais, dans le fond, il y a un peu dans les deux cas, un imaginaire qui a des aspects, je dirais, quelquefois un peu sophistiqués et savants, et puis qui a aussi des aspects très primitifs, très enfantins, très archaïques. Et moi, je me sens de plein pied avec cet univers que je vois là, parce que je ne vois pas de différence, au fond, dans la façon profonde qu'on a de rêver la ville. On rêve quelque chose qui peut arriver, qu'on se promène dans une rue, qu'il arrive quelque chose, qu'il y a une parade, qu'il y a un truc extraordinaire. On est enfant encore quand on fait ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui relie à l'enfance.
Comme vous le dites clairement. Dans votre livre, les dessins, c'est retour au stade de la fiction.
Oui.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, elle aussi, est un brin savante et très primitive et dont la richesse est, comme le projet architectural de Christian de Porzamparc, de confronter, de faire se rencontrer ses invités.
Nous irons de nouveau à Frandisco et même à New York, USA, avec un peu plus d'architecture de carton et de papier. Nos invités, Christian de Porzamparc et Thierry Van Hasselt.
Un petit peu de verre et d'acier aussi, mais tout de suite, il est l'heure du journal de la culture avec Zoé Sfèze.
Ping-pong.
Et je faisais si peu attention à elle que je ne m'étais pas encore aperçu qu'elle était à côté de moi au lieu d'être entre son père et sa mère. Quand soudain, non, jamais je ne saurais retrouver cette émotion et cet étonnement.
L'émotion est grande ce soir, non seulement parce que nous avons aperçu la présence à nos côtés de Zoé Sfèze, mais aussi puisque on vient d'apprendre la disparition d'Alexandre Astruc, cinéaste, écrivain, journaliste, qui s'est éteint, Zoé, à l'âge de 92 ans, après avoir traversé le XXe siècle en exerçant une influence profonde sur le cinéma qu'il a pratiqué, mais aussi beaucoup commenté.
Oui, c'est une figure extrêmement singulière que celle d'Alexandre Astruc, fils de journaliste, né dans les années 20. Il est très vite, très jeune, fasciné par le cinéma et se met à écrire, même en pleine Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, pour réaliser des films. Il écrit dans à peu près toutes les revues dites libres, notamment dans Combat. Il suit tous les procès de l'épuration à la Libération. Son écriture, qui est extrêmement rapide et précise, est aussi rigoureuse que lyrique. Une rigueur qui lui vient de la fascination profonde qu'il a eue toujours et jusqu'à la fin de sa vie pour les mathématiques, notamment pour la figure d'Évariste Galois, mathématicien prodige, qui est mort à 20 ans seulement en 1811, à qui il va consacrer un court-métrage et plus tard aussi un roman. Il passe enfin au cinéma en 1953, mais avec un regard d'auteur. Noël Simsolo est journaliste, scénariste, il fut son ami, a coécrit avec lui un livre d'entretien, Le plaisir en toute chose, qui est paru l'année dernière. Cette tension entre lyrisme et rationalité a pour lui dominé toute la vie d'Alexandre Astruc.
J'avais découvert Alexandre Astruc par ses écrits et puis par ses films. Quand je l'ai connu, c'était une relation merveilleuse, on est devenus amis tout de suite, et c'était pas toujours simple, parce que c'était un tempérament extrêmement fou, extrêmement violent, c'était à la fois Dionysos et Apollinaire, bon, mais également c'était ça son cinéma et son écriture, c'est-à-dire que dans son cinéma, ce qui se passait, c'est qu'il avait des idées qu'auraient pu faire des grands films, plein de bruit et de fureur de partout et tout, mais comme il avait une formation de mathématicien, qu'il adorait, il avait une rigueur incroyable pour le filmer. Quand on voit les films d'Alexandre Astruc, ce qui est formidable, c'est que des films d'un grand lyrisme théorique deviennent de la théorie qui devient lyrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc à enlever, c'est fait au cordeau, c'est de la structure. Et le personnage en même temps, lui, il était comme ça, il avait commencé par écrire dans toutes les revues possibles, dès pendant la guerre, hein, bon, pour être connu. Il dit, comme ça je pourrais faire du cinéma. Et quand il veut être connu, un beau jour, il a l'idée de la caméra stylo, c'est-à-dire il écrit qu'on peut faire du cinéma comme on écrit des romans, en tant qu'auteur, en tant que style, en tant que tout ça, bon. Ça marche tellement bien que, je crois que il rencontre Sartre quelques jours après, qu'il lui dit, Alexandre, c'est plus la peine que vous fassiez quoi que ce soit, vous resterez dans la postérité.
Et ce concept de caméra stylo, Zoé, lui-même, Astruc, va l'appliquer dès son premier long métrage et l'influencera durablement la nouvelle vague.
Oui, alors le premier film, le premier long métrage d'Alexandre Astruc, c'est Le Rideau cramoisi, film complètement unique en son genre, dont on entendait un extrait, un tout petit extrait en ouverture, adaptation d'une nouvelle de Barbé d'Orvilly, où joue notamment la star d'alors, Anouk Aimée, qu'il a été très difficile de convaincre, puisque c'est un film absolument sans dialogue, entièrement raconté par une voix off, qui se regarde et qui a été écrit finalement exactement comme un roman qui aura énormément de succès. Plus tard, Chris Marker, notamment beaucoup d'autres, se saisiront de ce concept, revendiqueront aussi les influences des cinéastes qui avaient été défendus par Alexandre Astruc le premier, évidemment Hitchcock, Murnau, Mizoguchi, dont il fut l'un des découvreurs, et Welles, qu'il admirait tant qu'il prit plus de 60 kilos pour lui ressembler physiquement à une période de sa vie. Tout cela lui vaut le surnom de Tonton de la Nouvelle Vague, mais comme il était passé de la plume à la caméra, Alexandre Astruc, très vite, va repasser de la caméra à la plume, comme nous l'explique son ami Noël Simsolo.
Qu'à la fin des années 50 et des années 60, il est dans les grandes références avec Otto Preminger et avec Bergman, Antonioni. Il est comme ça. Et il fait des films d'Alban Liris, dont ce chef-d'œuvre absolu qu'est La Longue Marche, qui est le seul grand film sur la résistance des années 60. En plan séquence, c'est-à-dire qu'on commence à tourner et pendant 9 minutes et on ne coupe pas. On ne fait pas d'insert, pas de montage. Et on se promène comme ça, mais avec une rigueur magnifique. Et puis, brusquement, peu à peu, il va se passer que, bon, bah, ça ne marchera plus. Et il va revenir à l'écriture. Alexandre a toujours été. Il n'est pas passé de l'un à l'autre. Il a toujours parallèlement écrit et fait du cinéma. Et au bout d'un moment, bon, bah, on n'a plus fait appel à lui comme réalisateur de films. Et donc, il a compensé par l'écriture. Et les dernières années de sa vie, il passait son temps à regarder parfois des films, à lire. Ce vieux monsieur très fatigué physiquement, et le plus important, je crois, c'est qu'il n'y avait aucune amertume. C'est pas le type qui veut dire, mais quand j'étais cinéaste, ou quand mes romans étaient publiés, non. Et il avait toujours un ou deux romans prêts qu'il voulait faire publier et tout. Il était passivement dans cette chambre, en activité permanente.
Voilà, alors il tourne ensuite de très belles adaptations de Balzac ou de Maupassant pour la télévision. Ses écrits théoriques sur le cinéma restent aujourd'hui des références. Il est notamment l'auteur d'une série d'entretiens célébrissimes avec Jean-Paul Sartre. Il a plusieurs romans, Le Serpent Jaune, L'Autre Versant de la Colline, Ciel de Cendre, qui sont primés par plusieurs prix. Et finalement, le monde du cinéma se souvient de lui, lui décerne en 94 le prix René Clair pour l'ensemble de son œuvre, près de 25 ans après qu'il ait tourné son dernier film.
Et tout de suite, on passe au bref. Zoé, on l'ouvre avec une session architecture, l'honneur de nos invités.
Tout à fait, ouverture en très grande pompe du réouverture du San Francisco Museum of Art, qui devient aujourd'hui le plus grand musée d'art moderne du monde, avec une collection de 17 000 photographies, un centre Pritzker pour la photographie, 33 000 peintures, sculptures, photos, objets d'architecture. Et l'extension de ce musée, conçue par le cabinet d'architectes Snoeta, j'espère que je le dis bien, ajoute près de 16 000 carrés à l'espace d'exposition et qui était préexistant de Mario Botta, construit en 95. Il a fallu plus de 300 millions de dollars pour arriver au bout de ce chantier titanesque.
L'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic a été récompensé jeudi par le prix Maison de la Presse.
Pour son roman Alam, histoire d'amour entre un Français et une jeune Tunisienne contrariée par le fanatisme religieux. Ce roman a été publié en début d'année. Il entraîne le lecteur en Tunisie au début des années 2000 et il s'achève avec la chute de Ben Ali. Évidemment, roman dans lequel Marc Trévidic a puisé dans son expérience de juge antiterroriste pour l'écrire.
Et ensuite, la région espagnole de Castille et Léon a annoncé jeudi l'interdiction de la mise à mort de taureaux lors des fêtes traditionnelles, sans toutefois s'attaquer à la tauromachie.
Mais ça reste une victoire en demi-teinte pour les défenseurs des animaux, puisque ce décret adopté par ce gouvernement conservateur vise la fête Toro de la Vega, qui se déroule dans la ville de Tordesillas. Cette tradition qui remonte à 1453 a été décriée souvent par les défenseurs des animaux. Et le gouvernement régional justifie sa décision par, je cite, la nécessité d'adapter les lois à la sensibilité du public.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Il est vachement important qu'il y ait beaucoup d'architectes de papier avant qu'on en fasse de la construite, parce que nos ancêtres de la Courneuve en avaient fait très peu de papier, énormément de construites à la va-vite, et nous on a beaucoup réfléchi, beaucoup dessiné. Moi j'ai dû faire 500 projets et j'en ai dû en construire 10. Alors maintenant j'en construis plus parmi tous ceux que je fais. Mais j'en fais beaucoup que je ne construis toujours pas. Qui sont des concours, qui sont des... L'architecture, ça se pense d'abord. On dit c'est cosa mentale, ça se passe dans le mental. Puis après, ça se dessine. Et puis du fait que beaucoup de dessins sont produits, il est sorti un peu de travail meilleur, ce qui fait que l'architecture en France moyenne est nettement meilleure depuis quelques années. N'importe qui peut le vérifier en se baladant à l'avenue d'Italie. On va apparaître des HLM qui n'ont pas l'air aussi nuls que leurs ancêtres. Tout ça était lié à une immense production de papier. Immense.
La production de papier en architecture, Roland Castro, en 1989, c'est une nuit magnétique sur France Culture, produit par Alain Weinstein. L'importance du papier, c'est au cœur de votre livre. Son sous-titre, c'est « L'architecture commence par un dessin ». Christian de Port-en-Part, vous parlez d'un moment où la raison et le rêve se répondent et se provoquent. Mais je crois que vous aimez aussi à souligner que le papier ne suffit pas. Vous parlez même d'un de nos faux amis les plus intimes. Pourquoi ?
Parce qu'on se fait plaisir, on peut dessiner et croire que le joli dessin va être un bel espace. Mais l'espace, c'est compliqué, c'est en trois dimensions. Donc il faut introduire une espèce de discipline, de contrôle en même temps. Ça paraît contradictoire avec la liberté, mais petit à petit, on arrive à associer ça. Et je pensais à une chose en écoutant cette dichotomie chez Astruc entre le travail de l'écriture et filmer. Il fait l'un ou l'autre. Eh bien, j'ai été comme ça pendant très longtemps, jusqu'au moment où j'ai construit les hautes formes où c'était construit. Avant, soit je faisais de la théorie, j'écrivais de façon d'ailleurs compliquée, enfin à la mode de l'époque, et soit je dessinais. Et quand j'ai eu affaire, j'ai eu l'idée du château d'eau. J'avais en même temps un projet de recherche, parce que le ministère de l'Équipement ouvrait un projet de recherche sur les villes du futur. C'était que du texte, n'est-ce pas ? Eh ben, j'ai abandonné. J'avais gagné ce projet, c'était de l'argent pour un ou deux ans et tout. Et j'ai arrêté et j'ai dit non, je ne peux pas faire à la fois un projet d'architecture, donc des dessins, je ne peux pas être dans le visible et en même temps dans l'écriture. C'était vraiment deux lobes du cerveau pour moi. Et puis quand j'ai eu quelque chose de construit, je me suis mis à appeler un chat et à parler simplement. Et tout s'est rassemblé. De même que quand vous imaginez, j'ai parlé de l'aspect enfantin, j'ai parlé de l'imaginaire. Et en même temps, eh bien oui, il faut que ça rentre dans des prix, ça rentre dans un système. Vous avez quelqu'un qui vous fait une commande. Je ne suis pas comme Marcel Schmitt et Thierry, juste en face
d'une table. Ils sont ici pour une ville imaginaire, pour un disco.
Oui, mais moi je me rêve comme eux. Mais en réalité, j'ai un autre partie de moi-même qui n'a pas oublié, forcément. Mes clients doivent se dire que je deviens fou, sinon s'ils m'écoutent, que je réponds à une demande où ça va coûter tant, et ça va être pour le dans 18 mois, etc. Vous savez, il y a une réalité économique et technique qui est lourde, qui paraît lourde aussi au début. Peut-être ma chance, c'est que j'ai démarré avec une certaine naïveté, à faire des concours, à répondre des choses, sans savoir très très bien tout ce qu'était cette réalité technique. Et quand on a un vrai désir, on arrive à résoudre les problèmes techniques. Si on apprenait tous ces trucs techniques uniquement à l'école, on sortait d'abord au bout de 2 ans, on dirait non, je ne fais pas, je vais faire autre chose. Il y en a qui ça arrive. Non, il y a le désir de l'imaginaire fait que on trouve la force de se dire mais je vais savoir trouver les bons conseils pour ça, on va y arriver. Mais ça existe quand même. C'est à mettre en relation. Vous avez la raison et l'imaginaire.
Et le rêve, ouais.
Et le rêve. Alors, ils sont en relation non conflictuelle. C'est ça qu'il faut arriver à faire.
Thierry Van Hasselt, vous aussi, vous avez appris des tas de trucs techniques à la fameuse école Saint-Luc de bande dessinée à Bruxelles. Vous vous êtes mis donc à dessiner aux côtés de Marcel Schmitt quand il construisait sa ville imaginaire de carton franc-disco. Et puis, non seulement, on en parlait dans la première partie de l'émission, il s'est introduit dans votre bande dessinée qui vient d'être publiée aux éditions Frémok, Vivre à franc-disco, à travers l'utilisation de ses propres dessins parmi les vôtres. Et puis vous, tout s'est rassemblé, comme chez Christian de Port-en-Part, puisque vous êtes devenu ouvrier de la ville de franc-disco.
Pas vraiment. Moi, je ne fais rien dans cette ville, si ce n'est que des discussions qu'on a ensemble peuvent venir des envies pour Marcel de construire.
Vous n'avez pas du scotch sur les doigts comme le capitaine Haddock.
Non, mais Marcel est complètement autonome.
Alors moi, je trouve que vous exagérez quand vous dites que vous ne faites rien, parce que vous la dessinez.
Oui, je la dessine, la ville en 3D existe par Marcel, uniquement.
Oui. Oui,
mais vous discutez ensemble.
Ah oui, on discute ensemble. Donc finalement, il en vient à construire des bâtiments qui résultent de notre rencontre, évidemment. Oui. Mais lui a fait le chantier trois dimensions. Lui, c'est le constructeur.
Oui, parce qu'il fait une sorte de maquette, alors.
Oui.
D'accord.
Ce sont des maquettes. Les plus grandes font 1,50 m de haut. Les plus petites sont beaucoup plus...
D'accord, parce que si vous voulez, quand je dis cette phrase, la ville, l'architecture commence avec un dessin, c'est un peu une provocation pour les architectes, mais c'est cette vérité qu'il faut y mettre la main à la pâte, soit en maquette, soit avec des papiers. Et puis, pour la connaître et bien en parler, il faut y aller avec ses pieds et ses yeux. Il faut, l'architecture, c'est très physique.
Il faut que la ville reprenne pied, hein, dites-vous.
Oui, oui. Donc, c'est très physique. Pour ça, je dis, quand c'est que du langage, ça peut être vraiment de la littérature magnifique. Mais il y a cette... Alors, je me disais, Thierry, il a fait le côté physique, il a fait le dessin. Mais j'apprends que non, Marcel a fait des maquettes. Oui. Donc, je comprends que les deux sont la main à la pâte. Donc,
Marcel, par contre, ne fait pas de dessin. Il fait aussi du dessin par ailleurs. Il fait de la gravure, il fait de la peinture, il fait des trucs, des œuvres magnifiques.
Il vous a fait des personnages un peu là-dedans.
Oui, il est à ma demande. C'est ça, drôle. C'est vraiment une demande de ma part.
C'est formidable.
Qu'il dessine des personnages.
Donc, oui, il passe de la 3 dimensions à en 2 dimensions.
Il a quand même passé. En fait, son parcours, c'est quelqu'un qui est fasciné par les bâtiments, qui a commencé par dessiner des bâtiments, mais en 2D, et qui était vraiment frontal. Hein, donc, un building, c'était un rectangle avec d'autres rectangles dedans, qui étaient les fenêtres. Et il a voulu comprendre la perception de la 3 dimensions en 2 dimensions. Donc, il a compris qu'il y avait cette chose qui s'appelle la perspective. Et donc, il a demandé à un des animateurs de...
La S Grand Atelier.
Oui, de la S Grand Atelier.
L'œuvre.
De lui apprendre la perspective. Et donc, on lui a appris la perspective. Donc, on lui a appris le fait qu'il fallait qu'on arrive à percevoir un objet...
C'est extraordinaire,
en,
ça.
En deux faces en même temps. Mais ça, il l'a fait, il la gère, la perspective, à sa manière. Hein, donc, un peu comme ces bâtiments, tout est un peu tordu, mais c'est expressionniste, on va dire. Et ça ne lui a pas suffi, donc il a voulu commencer à construire en 3 dimensions les bâtiments. Et il le fait, il n'a pas besoin de moi. C'est ça qui est beau dans ce projet, c'est que finalement, c'est de l'architecture très légère. Il n'a pas besoin de savoir effectivement ce que ça va coûter, si ça ne va pas trop s'écrouler. Parfois, ça s'écroule d'ailleurs, comme dans une vraie ville. Et donc, il passe ses journées à construire sa ville et à en assurer l'expansion.
Un mot, Christian de Port-en-Part, sur justement l'expansion urbaine et notamment à Paris. Dans vos premières années, vous êtes allé à New York vous nourrir de musique, de poésie, de la bande à Ginsberg, entre autres. Vous y êtes retourné pour construire des tours. C'est au New York USA, c'est au là-haut. C'est vrai, vous l'avez fait, votre New York, 30 ans plus tard. Comment est-ce que vous voyez notre culture de la tour, nous, à Paris, en France? Je sais que vous avez l'impression qu'on a du mal à y aller d'une certaine manière. On est encore réfractaire à ce qu'une belle tour pourrait créer dans la ville.
Vous savez, souvent, on a des débats où c'est pour ou contre. On a toujours, et c'est ce que les médias aiment aussi. Donc autrefois, il y a 20 ans, c'était pour ou contre la ville traditionnelle ou pour ou contre la ville moderne. En réalité, la vie est plus riche que ça. Et pour Paris, je dirais... On n'a pas intérêt à mettre des tours dans la clarté et la beauté de la ville horizontale, sans pour autant la muséographier, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir la transformer et y mettre des éléments contemporains. Ça m'est arrivé à Avenue de Wagram, j'ai fait un bâtiment tout en verre. C'est un endroit où les règlements obligeaient à mettre que de la pierre, mais l'architecte des bâtiments de France a dit « ça c'est créatif, je vais l'autoriser ». Donc on peut transformer quand même, mais un peu plus loin vers le périph', que l'on construise de plus vertical et qu'on construise des tours, me paraît très possible. Puis après, plus loin encore, de dire qu'on pourra mettre des tours très loin, sûrement pas, parce que ça coûte plus cher qu'un bâtiment normal. On ne va pas faire ce que certains appellent des impasses en hauteur, nécessairement pour vivre. On n'a pas besoin de la hauteur. Là où on n'a pas besoin de la hauteur. Là où il se fait que ça monte en tours, c'est parce qu'il y a une pression, il y a beaucoup de besoins, le terrain coûte cher et que ça vaut le coup, mais sinon c'est pas un enjeu pour moi de faire des tours. Alors à New York, c'est un cap très particulier. Je me trouve dans une ville où il y a presque que ça, et donc j'ai joué le jeu. Mais ce n'est pas un modèle pour le futur absolu. Et vous voyez, c'était un intérêt, c'était un plaisir. La dernière qui s'ouvre en ce moment, elle n'est pas très haute, elle est à 150 mètres, elle est sur Park Avenue au sud, et c'est une tour où il y a des gens, des appartements sociaux et des gens de moyennement riches. Il y a un mélange, c'est pas mal. La ville a préempté, en quelque sorte, 25% pour des listes de gens qui s'appellent affordable. Donc, c'est... Les gens, j'ai été invité à les voir s'installer et vivre. Et ils sont heureux et ça m'a fait plaisir. Ils m'ont dit qu'ils aimaient mes angles, les vues lointaines que ça donne, tout ça.
Ping-pong. La culture sans limite.
Ce soir, notre disque du jour est vivant.
bien vivant, puisque c'est un live avec Batouk. Ils viennent d'Afrique du Sud, c'est un trio abrasif, on peut le dire, emmené par Mantega. Mantega, elle a carrément mis au pas tous ceux qui sont harceleurs de rue en Afrique du Sud avec une chanson baptisée Pouta et amène à les dégager ses insulteurs. Ils nous interprètent Batouk, donc en vivant, en live, dans Ping Pong, en Baka.
France culture, what's happening? We're Batouk all the way from South Africa. My name is Mantega. I'm here with Errol Maniello and Spook Matambo. Uh-huh. And we're here to make your hips move. Uh-huh. Tua mão, me levanta, levanta no chão, mexe, mexe com sua pau. Anda cá, então, anda cá, então, anda cá, então, anda cá, então, anda cá, então. Vamos lá, então, vamos lá. Então, breathe in, breathe out. Come a little closer, let me feel you out. Lay your lips over here. Look into my senses to feel the air. Turn me over, let me get on top. You know I like it when your booty wiggle and drop. Hold my hair, pull my hair. What's on your mind? Whisper in my ear. What's on your mind? Whisper in my ear. What's on your mind? Whisper in my ear. What's on your mind? What's on your mind? Whisper in my ear. What's on your mind? What's on your mind?
A little bit of
what's on your mind? What's on your mind? And I got in town. And I got to a mouth. Levanta no chão.
Mishi mesh. Com sua pau.
And I got in town. And I got to a mouth. Levanta, levanta no chão. Mexe, mexe com sua pau.
Anda cá, então.
Vamos lá. Então. Vamos lá.
Mantega, what's on your mind?
Então. What's on your mind? Whisper in my ear. Whisper in my ear. What's on your mind? Whisper in my ear.
Let it call in the night. When you.
Vamos lá. And down, vamos lá. Naka and down. What's on your mind? Whisper in my ear. 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 What's on your mind? Whisper in my ear.
Sexiste, c'est la house sud-africaine de Batouk qui s'érige dans Ping Pong. Vous pouvez la retrouver en concert à Paris, au Petit Bain. Il y a également un documentaire à voir sur Batouk.
Ping Pong.
Et c'est déjà fini.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci au groupe Batouk et à vous deux, messieurs Christian de Portes-en-Parts et Thierry Van Hasselt. Christian de Portes-en-Parts, donc vous signez Les dessins et les jours. L'architecture commence avec un dessin. Un ouvrage publié aux éditions Somogy. Je le disais, c'est une somme, que dis-je, c'est un monument. Si on le met sur la tranche, c'est presque une tour. Thierry Van Hasselt, vous, c'est aussi un monument en bande dessinée publié aux éditions Frémoc. Vivre à Frandisco, que vous signez avec la complicité en équipe avec Marcel Schmitz.
Le ping-pong est un îlot radiophonique qui se bâtit en équipe, oui, et quelle équipe ! À la rédaction, Aïssatou Ndoye, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Jacques Hubert et Jean-Guilain Meige.
Mais quid de notre beau vendredi, Mathilde ?
Notre vendredi sera en compagnie de Valère Novarina et de Mackenzie Orcel. Nous serons en Haïti et au théâtre.
Et tout de suite sur France Culture, avec la complicité d'Alex Dang, également aux manettes, Denis Podalydès de la Comédie Française.